7h51 à Paris. Votre invité Frédéric Rivière, vous recevez ce matin Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget auprès du ministre des Finances et des Comptes Publics.
Bonjour Christian Eckert.
Bonjour.
L'État a-t-il selon vous les moyens de répondre à la crise que traverse le monde agricole? Quand je dis moyens, il s'agit à la fois des idées et des moyens financiers.
Écoutez, il y a deux sujets. Il y a tout d'abord la nécessité de réformer la filière. Filière qui, évidemment, pose la question de la répartition des marges entre les différentes étapes de cette filière. Et c'est un sujet sur lequel le gouvernement travaille beaucoup, depuis quelques mois d'ailleurs. Ça ne se sait pas plus que ça, mais vous avez vu que Stéphane Le Foll a réuni l'ensemble des maillons de cette chaîne et que des choses ont déjà évolué. Mais il faut aller plus loin. La deuxième élément, c'est que l'ensemble du gouvernement est mobilisé pour soutenir la filière. Nous avons nous-mêmes pris des mesures concernant, par exemple, le versement de la TVA qui peut se faire mensuellement, ce qui donne un peu d'oxygène pour repousser un certain nombre d'échéances sur l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu. Un plan qui a été évalué autour de 600 millions d'euros. C'est ce qui a été annoncé cette semaine et qui continue à être travaillé avec l'ensemble des ministres concernés. Notre ministère l'est aussi.
Les agriculteurs disent aujourd'hui qu'ils ne veulent plus de subventions, plus d'aides, mais qu'ils veulent des prix. On leur achète leurs produits à des prix raisonnables, qui leur permettent d'en vivre.
Ils ont bien entendu raison. Le problème, c'est que les prix sont liés à des marchés et que c'est pas le gouvernement qui fixe les prix.
Là-dessus, le gouvernement est impuissant.
Non, il a pesé d'ailleurs. On a vu que concernant la filière porcine, il y a eu une pression très forte qui fait qu'on est aujourd'hui à peu près arrivé à des prix qui permettent aux agriculteurs d'avoir le fruit de leur travail. C'est pas encore le cas dans la filière bovine. Et puis c'est plus compliqué pour le lait parce que le marché du lait, de la poudre de lait, du beurre, est un marché très international et qu'une moindre consommation par exemple en Chine, c'est ce qui se déroule actuellement, ou une production plus importante dans certains pays, c'est le cas de l'Australie par exemple, fait qu'on peut effectivement difficilement peser sur ce marché du lait, de la poudre de lait notamment, qui consomme la moitié de la production du lait en France. C'est pour ça que le gouvernement a demandé à ce que les ministres européens se réunissent sur le sujet. J'espère que les choses vont se stabiliser. Mais quand il y a une crise, quand il y a une crise de cette ampleur, il est normal que la solidarité nationale s'exerce.
Vers quel modèle faut-il tendre, selon vous ? Un modèle plus intensif, à l'allemande, avec des exploitations considérables, des élevages de plus de 1000 vaches, ou au contraire, en revenir à un modèle plus local, ou vers le développement du bio, par exemple ?
Je crois que chaque type de production présente son intérêt. La filière bio est une filière qui aujourd'hui peut se développer, mais qui arrive forcément à des prix plus importants que les filières soit plus traditionnelles, soit plus intensives, comme vous l'évoquez. Donc elle ne concerne pas l'ensemble des consommateurs. Quant aux établissements du type de ceux que vous évoquez, il faut veiller néanmoins à ce que la qualité reste suffisante. On ne peut pas avoir une baisse de qualité, même si on arrive à des prix plus intéressants pour les consommateurs. Donc il faut trouver un équilibre, et c'est là-dessus que le gouvernement travaille, Stéphane Le Foll, avec l'ensemble du gouvernement.
Le ministre de l'Agriculture. Vous êtes en pleine discussion, Christian Eckert, avec les collectivités locales, notamment les associations de maires, qui s'inquiètent de la baisse de leur dotation versée par l'État. Vous souhaitez réformer le système de ce qu'on appelle la DGF, c'est-à-dire la dotation globale de fonctionnement. Quel serait le sens de cette réforme ?
D'abord, je crois qu'il commence à y avoir un consensus sur la nécessité de réformer. C'était pas forcément le cas il y a quelques mois.
Mais pas forcément sur le calendrier.
Il y a un désaccord sur le calendrier, j'y reviendrai. La dotation globale de fonctionnement est aujourd'hui quelque chose d'une complexité rare, vous pouvez le constater, qui utilise 29 critères dont on ne mesure plus aujourd'hui d'où ça vient. Et qu'est-ce qu'on constate ? On constate que des communes comparables, par leur taille, par leur histoire, par leur typologie, ont des dotations qui parfois varient de 1 à 2, de 1 à 3, ce que plus personne ne sait expliquer. Donc il faut revenir à quelque chose de plus simple, même s'il faut toujours prendre en compte la diversité des situations, parce que ça, c'est la grande caractéristique. Une commune comme ici, les Moulineaux, n'a pas les mêmes caractéristiques que Guéret, dans la Creuse, par exemple. Donc même s'il faut prendre en compte la diversité, il faut revenir à des choses plus simples. C'est le sens de cette réforme. Concernant le calendrier, le gouvernement souhaite aller vite. gouvernement souhaite que dès la loi de finances de cette fin d'année, nous posions les jalons plus que ça. D'ailleurs, nous arrivions à établir quelque chose de plus simple et surtout de plus juste, de plus transparent. Beaucoup ont des craintes. Je crois que le travail parlementaire, il y a eu un rapport, d'ailleurs ce rapport va être remis ce matin au Premier ministre, qui permet de rassembler, je crois, sur la nécessité de faire des péréquations, la nécessité d'être plus transparent et plus juste.
Alors, les dotations baissent, hein, c'est une tendance qui est en place depuis quelque temps déjà et qui va se poursuivre. Selon un rapport sénatorial qui est sorti il y a 2 semaines, 62% des collectivités ont déjà baissé leurs dépenses d'investissement en 2015. Comment pouvez-vous éviter une trop forte baisse justement de l'investissement local qui serait finalement néfaste pour l'économie du pays ?
D'abord, il faut éviter de surinterpréter les chiffres que vous venez d'évoquer. Pourquoi ? Parce que à chaque fois qu'il y a un renouvellement d'équipe municipale, vous avez une baisse de l'investissement des collectivités locales importante. Elle est généralement autour de 6 ou 7%. Parce que l'équipe sortante, si j'ose dire, achève ses projets. L'équipe entrante commence à travailler à de nouveaux projets. Vous avez forcément une période, d'ailleurs toutes les entreprises le savent, vous avez toujours une période de creux. C'est vrai, il faut le dire, que cette fois-ci, le creux est un peu plus profond, puisqu'on est autour de 10-11% de baisse de l'investissement. Traditionnellement, on est plutôt autour de 7-8% quand on prend l'histoire de ces 20 dernières années. Alors, pour les collectivités locales, c'est comme pour l'État. Il faut diminuer et maîtriser ces dépenses de fonctionnement. Aujourd'hui, vous avez des dépenses de fonctionnement dans les collectivités qui augmentent autour de 3% par an depuis quelques années. Pour l'État, on est à 0,9-1%. En matière de dépenses de santé, on a également des chiffres beaucoup plus bas. Et si on maîtrise bien ces dépenses de fonctionnement, si on fait jouer la solidarité, si on fait jouer la mutualisation aussi entre les communes, je crois qu'on peut tranquillement aborder des périodes où l'investissement peut repartir.
74% des Français ne croient pas à la pause fiscale promise par le président de la République. Vous les comprenez, compte tenu de ce qui s'est passé ces dernières années ?
Deux éléments. Le premier, c'est que les avis d'imposition sont en train d'arriver dans les foyers. 9 millions de foyers vont recevoir un courrier accompagnant leur avis d'imposition qui va leur démontrer que ce qui a été décidé en fin d'année dernière, c'est-à-dire une baisse pour les catégories les plus modestes et les catégories moyennes, va être effective. Deuxième élément, c'est que il y a une vraie ambiguïté, c'est que l'impôt d'une année est toujours payé l'année suivante. Donc on a un peu oublié ce qui s'est passé l'année précédente. C'est une des motivations pour lesquelles le gouvernement souhaite mettre en place la retenue à la source. Le président de la République s'y est engagé et nous travaillons sur ce point pour arriver le 1er janvier 2018 à la mise en œuvre complète de la retenue à la source.
Merci Christian Eckert, bonne journée.
Merci à vous.